La grande table, deuxième partie, toute l'actualité des idées au programme aujourd'hui, alors que le Goncourt et le Renaudot ont consacré simultanément l'ordre du jour d'Éric Vuillard sur les coulisses de l'Anschluss et la disparition de Joseph Mengele, ancien médecin et tortionnaire nazi, roman d'Olivier Guèze. Pourquoi ce retour de l'histoire, de livre en film, le nazisme s'affiche pour inlassablement tenter de comprendre la fabrique des monstres, le règne du mal, faire œuvre de mémoire ou éclairer le présent. Qu'a cette période si sombre de l'histoire encore à nous dire? Invitée pour en parler aujourd'hui, la journaliste Géraldine Schwartz pour son livre Les Amnésiques chez Flammarion, réflexion personnelle et historique sur le devoir de mémoire que se sont imposées trois générations d'Allemands et le droit à l'oubli pratiqué un peu trop souvent encore en France. Une amnésie qui a gagné l'Europe de l'Est, mais aussi l'Italie ou encore l'Autriche et qui mine la mémoire d'un continent. Bonjour à vous Géraldine Schwartz.
Bonjour.
À vos côtés, l'historien Fabrice Dalméda, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2 et à l'Institut français de presse, auteur au PUF cette année de La manipulation dans la collection Que sais-je et d'une histoire mondiale de la propagande en 2013 à La Martinière. Il vient de conseiller le réalisateur Antoine Wittkin pour son documentaire Magda Goebbels, première dame du Troisième Reich, diffusé demain à 22h55 sur France 2. Après un premier film, Jeunesse hitlérienne, l'endoctrinement d'une nation. Deux documentaires qui ont en commun de se confronter à la question du mal, d'une manière ou d'une autre, en portant l'attention sur le rôle des individus. Ça, c'est ce qu'en dit le réalisateur Antoine Wittkin. Bonjour à vous, Fabrice Almeida.
Bonjour Olivia.
Alors comment expliquer l'intérêt que suscite encore cette période noire de l'histoire auprès des auteurs de films, de livres, comme pour les lecteurs ou les téléspectateurs? Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question avant qu'on en vienne à vos travaux respectifs? Géraldine Schwartz.
Ça dépend de la définition qu'on a du mal. Je pense que dans l'historiographie sur le national-socialisme, il y a eu plusieurs époques et que c'est vrai que depuis la sortie des Bienveillantes, le livre de Jonathan Little, on s'est intéressé beaucoup au bourreau et à la fabrication de monstres. Moi, personnellement, je pense que ce qui m'intéresse, c'est davantage le monstre dilué au sein d'un peuple. Donc comment chacun contribue finalement à la fabrication d'un monstre.
Fabrice Dalméda.
Ah, c'est une longue histoire, mais je crois qu'il y a quand même un moment clé qui est quelque part à la fin des années 70, au début des années 80, le moment où le négationnisme revient, paradoxalement, et où on commence à travailler sur la façon dont le crime a été commis, donc commence à réfléchir à ce qu'était le travail des bourreaux, et au même moment, presque par une espèce de conjonction absolument inouïe, au début des années 80, la victime devient un peu le cœur, enfin pas un peu, devient le cœur de notre civilisation. C'est-à-dire la victime innocente, je crois, à partir des années 80, ça avait un peu commencé avant, mais prend même la place du héros et donc devient presque centrale dans toute notre conception du droit, dans tout notre système juridique. Et pour moi, c'est ça qui fait que on se penche sur cette question du passage à l'acte.
Antoine, est-ce que vous diriez que, comme on le dit parfois, que l'événement, notamment l'événement Shoah, n'a pas été et ne peut pas être réintégré, réabsorbé par l'histoire et qu'il revient frapper à la porte à chaque instant, ça ne peut pas passer?
Moi, je dirais, je suis pas sûr que ça ne passe pas. Je crois que c'est carrément une fondation. C'est-à-dire que il me semble que notre système juridique, pour le dire d'une manière un petit peu lourde, repose sur un concept de base qui est la question du génocide, que ça a entraîné la mise en place de tout un ordre de tribunaux avec une logique d'imprescriptibilité, une cour pénale internationale, des droits de l'homme, une conception, etc. Et donc pour moi, ce génocide et ceux qui ont précédé aussi, celui des Arméniens qui a amorcé la chose, celui des Hereros qui avait été un peu plus oublié, toute cette logique fait qu'aujourd'hui, comprendre le passage à l'acte, comment comprendre ce qu'est le geste du tueur d'une personne innocente est crucial. Pour faire un parallèle, pour moi, on ne peut pas isoler ça non plus de cette logique d'invention du serial killer, qui est aussi l'autre figure sur laquelle bégaye notre fiction.
Comprendre ce moment de bascule, Géraldine Schwartz.
Pour répondre à votre question, Antoine, merci. Je pense pas que ça doit passer. C'est pas ça passe ou ça passe pas. C'est très bien que ça ne passe pas. Et c'est pas la Shoah en tant que telle qui ne passe pas. C'est ce que la Shoah a montré. Et elle a montré ce l'homme est capable, ce dont son quoi l'homme est capable, et se souvenir de quoi l'homme est capable permet aujourd'hui de donner une ligne directrice à notre comportement aujourd'hui dans le présent, parce qu'il faut pas penser que l'homme a changé, que l'homme est désormais meilleur.
Concrètement, justement, vous parlez des gens moyens qui suivent le courant, mais en quoi nous ne sommes pas encore ces hommes-là?
Ah, mais nous sommes tout à fait ces
alors, ça pose un problème quand même.
Oui, oui. Mais non, je pense que justement, il faut, la raison pour laquelle aujourd'hui, peut-être que nous sommes plus éveillés sur les conséquences de nos actes, in fine, quand on va voter ou quand on agit, on pense peut-être plus qu'il y a un siècle, si ce geste est multiplié par des millions et des millions de personnes, les conséquences peuvent ressembler à l'Holocauste. C'est ça la différence. Mais il faut rester en éveil, il faut continuer à se surveiller. Et l'histoire sert à ça, à se surveiller pour se souvenir des mécanismes qui endorment les populations et qui les guident vers une forme de conformisme, d'aveuglement, de petite lâcheté qui, mis bout à bout, peuvent avoir des conséquences complètement néfastes.
Alors on va en venir au pourquoi ensemble, à comprendre aussi si des parallèles peuvent être faits entre hier et aujourd'hui, mais d'abord comprendre le comment avec vous deux, à travers à la fois le film que vous avez conseillé, Fabrice Dalméda, et le livre que vous avez écrit, Géraldine Schwartz, La descente des grands événements dans les vies minuscules, cette expression de l'historienne Mona Ouzouf. Vous l'appliquez à la lettre, Géraldine Schwartz, en repartant de l'histoire de vos grands-parents allemands, ni du côté des victimes, ni du côté des bourreaux, et de vos grands-parents français, des contributions individuelles, plus ou moins directes, plus ou moins actives, plus ou moins passives, celles de ces Mitläufer qui apparaissent dès le sous-titre du livre, des personnes qui marchent dans le sens du courant, des petits aveuglements, des petites lâchetés, qui, mis bout à bout, ont créé les conditions de ce que l'on sait aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi donc de reprendre le fil de cette histoire par ce biais personnel, Géraldine Schwartz?
Parce que justement, je pense que quand on met en avant des incarnations du mal, des personnalités, au parcours extraordinaire, on n'arrive pas, on peut pas, c'est pas le meilleur moyen pour responsabiliser les gens. Parce que personne ne peut s'identifier à un Mengele, par exemple. Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, tellement il incarne le mal. En revanche, des personnes qui nous sont proches, comme nos grands-parents, de suivre leur histoire, leur parcours et de réfléchir à leur comportement dans un contexte donné, nous permet de nous-mêmes réfléchir à qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec mon grand-père. Mon grand-père, en 1938, dans la ville de Mannheim, mon grand-père allemand, va acheter une entreprise à une famille juive, les Lehmann, à bas prix. Parce qu'en 1938, dans le contexte des mesures d'arianisation, les entreprises juives s'achetaient une bouchée de pain. Donc mon grand-père a profité de la détresse des juifs pour faire des affaires. Et après la guerre, une lettre d'un survivant de cette famille qui a péri à Auschwitz va atterrir dans la boîte aux lettres de mon grand-père. Et ce survivant réclame de l'argent à mon grand-père qui a acheté cette entreprise à bas prix. Et mon grand-père va sombrer dans le déni. Cela je l'ai parce qu'il a laissé en fait des copies de ses propres lettres. Et à partir de ces lettres, je me suis demandé si... c'était son comportement, était symptomatique du peuple allemand dans les années 50, et comment une telle amnésie était possible, et comment l'Allemagne avait fait, justement pour passer de ce statut d'amnésie au travail de mémoire très accompli qu'on lui connaît aujourd'hui.
Déni qui sera aussi juridique, puisqu'il va répondre à cette demande en estimant qu'il ne doit rien, qu'il a été sur le moment particulièrement généreux. Ce sont ses mots et c'est la réponse qu'il fera. Est-ce que cette histoire vous a été transmise par votre grand-père ou par votre père, ou est-ce que c'est vous qui l'avez découverte ?
Je savais que mon grand-père avait été membre du Parti national-socialiste à partir de 1935. Je savais qu'il il n'avait pas eu de fonction importante dans le Reich, mais effectivement, je savais pas que l'entreprise de mon grand-père, dont j'avais entendu parler, avait appartenu à des juifs. Après, je ne pense pas que mon père ait voulu me cacher cette histoire. Vous savez, souvent, on pose pas assez de questions à nos parents. Et pour moi, ce travail dans le cadre duquel j'ai interviewé mon père, ma tante, m'a beaucoup rapprochée de mon père. Et je trouve que ce serait une bonne idée dans les écoles que les élèves fassent de même et aillent creuser, aillent demander à leurs parents quelle est leur histoire. Mais ces lettres, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance en trouvant ces lettres parce que rien n'est plus significatif de cette amnésie collective qui a un phénomène tout aussi étonnant que l'enthousiasme collectif pour le Troisième Reich dans les années 30.
Besoin d'incarnation, besoin de comprendre des trajectoires de gens ordinaires qui étaient ordinaires et qui sont devenus peut-être extraordinaires aussi par l'enchaînement des faits et des événements. C'est le cas de Magda Goebbels, Antoine Wittkin, qui a réalisé ce documentaire qui lui est consacré, qui sera diffusé demain soir sur France 2, rappelle que contrairement à son mari, elle n'est pas une actrice majeure de l'histoire. Elle est la femme du ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, et une amie d'Adolf Hitler. Elle est mère de 6 enfants. En 44, dans le bunker d'Hitler. Elle va se tuer et surtout tuer ses 6 enfants. À son fils seul rescapé de cette, son fils aîné, né d'un autre mariage, elle va écrire « La vie après le Führer ne vaut plus la peine d'être vécue », extrait du documentaire.
Mon cher fils, nous sommes ici dans le bunker du Führer. Papa, tes 6 frères et sœurs et moi, pour mettre fin à notre vie nationale-socialiste de la seule façon honorable. La vie après le Führer ne vaut plus la peine d'être vécue. C'est pourquoi j'ai aussi pris mes enfants. Ils sont trop bien et trop bons pour ce monde à venir. Hier soir, le Führer m'a offert son insigne en or du parti. Je suis fière et heureuse. Je t'embrasse avec l'amour le plus ardent, le plus profond et le plus maternel. Ta mère.
Fabrice Dalméda, on vous retrouve dans ce documentaire. Vous avez par ailleurs beaucoup discuté avec Antoine Wittkin de ces événements, de cette personnalité qui était celle de Magda Goebbels. Le documentaire tente de saisir les ressorts de son endoctrinement, comment elle va se convertir en à peine 3 mois. Elle qui était une femme plutôt privilégiée de l'élite, qui avait a priori tout pour être bien dans la vie. Comment devient-on un symbole de la folie nazie? Comment est-ce qu'on adhère à un système politique criminel? Et pourquoi, au nom d'une idéologie? C'est vraiment une histoire individuelle qui est retracée dans ce film. Pourquoi ce besoin d'incarnation? Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui?
Il y avait quand même, je me souviens, dans la toute première discussion qu'on a eue au moment où Antoine Wittkin concevait son film, on se connaît depuis quelques années, depuis notamment qu'il a fait son Mein Kampf, c'est-à-dire le documentaire sur cet ouvrage. Quand il a commencé à réfléchir, le geste qui lui paraissait le plus délirant à étudier, c'est évidemment cet empoisonnement des 6 enfants et ensuite le suicide des parents. Pourquoi est-ce qu'on en arrivait à avoir cette espèce de trajectoire sur une femme dont on disait qu'elle était plus hitlérienne même que son mari? Donc c'était ça l'énigme qu'il voulait tirer. Et par ailleurs, c'est vrai que on a une très très forte présence des femmes dans le nazisme qu'on a tendance à oublier. Et donc il voulait travailler cette façade, cette apparence d'une famille idéale, d'une éducation parfaite. Et puis en creusant, on se rend compte qu'au départ, elle n'est pas forcément prédestinée à ça. C'est une femme qui a eu un mari banquier qui a fait partie de la haute société, qui a commencé à entrer dans la société, qui a même eu un amant sioniste, un père adoptif juif. Donc à la limite, on aurait pu penser qu'elle a une autre trajectoire. Et puis il y a un moment où il y a cette rencontre avec le nazisme, un dîner, une conversation, et puis ensuite elle devient militante. Et ce qu'a montré Antoine, et moi ce qui me paraît absolument crucial dans ce documentaire, c'est le basculement du moment où on est militant. Donc on est dans le truc, on commence à travailler, on dépose des tracts, et puis le moment où on devient vraiment fanatique. Et lui, c'est ça qui montre Antoine, c'est que son fanatisme, il va vraiment jusqu'au bout, au point qu'elle est même incapable de concevoir cet après. La lettre dont vous avez passé l'extrait, elle dit ça. Elle dit qu'elle est incapable de penser ce que va être la réalité de l'après-guerre allemande que Géraldine Schwartz nous montre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont s'adapter, les gens vont se recomposer, ils vont parfois oublier, etc. Et son fils aîné, à qui elle écrit la lettre, le fameux Harald Kvant, il va revenir de la guerre, il va reprendre l'entreprise familiale de son père, en l'occurrence Bayerisches Motorwerk, qu'on connaît mieux sous le sigle BMW, et il sera le PDG de BMW, richissime, première fortune allemande, dans l'après-guerre, dans l'après-seconde guerre mondiale. Ce que elle, Magda, elle peut éventuellement concevoir, mais qu'elle refuse. Et qu'elle refuse pour ses autres enfants enfermés avec elle dans le bunker.
Pourquoi elle le refuse, fondamentalement ?
C'est justement la réponse d'Antoine. C'est pas qu'un... Alors, dans le film, il y a Toby Nathan qui est interrogé, justement, parce qu'il nous fallait, il fallait pour Antoine un psychiatre, un psychanalyste, un ethnopsychiatre, en l'occurrence.
Qu'on recevait la semaine dernière dans la
comptable. Qui puisse répondre, qui a travaillé sur d'autres extrémistes. Et il y a vraiment une dimension du fanatisme. C'est un mélange de cas cliniques et de cas idéologiques. Mais elle est avec un groupe où, en réalité, l'idée de mourir, elle dit la seule manière digne pour un national-socialiste de mourir, c'est-à-dire c'est mourir au combat, mourir au front. Elle se pense comme un soldat. Bien sûr, elle a dirigé l'association allemande de la mode. Bien sûr, elle s'occupait de courses hippiques. Bien sûr, elle était dans tous les sujets de la frivolité mondaine du Troisième Reich. Mais elle était avant tout une hitlérienne convaincue, militante, fanatique, voulant aller au bout de ses convictions et mourir avec elle.
Et vous parlez d'une quête de sens pour elle, donner du sens à sa vie. Elle n'arrête pas de se plaindre qu'elle s'ennuie avant ce mariage aussi avec Joseph Goebbels et son choix de rejoindre le groupe. Elle va vraiment entrer en communion avec cette idéologie et avec ce groupe et donner un sens à sa vie à travers ça.
Alors c'est une question cruciale, ça. Parce que si on exclut cette question, parce que la vacuité de la vie, l'ennui, le sentiment de l'inexistence, en exagérant, en étant lacanien, on pourrait dire que c'est l'espèce de l'objet petit a du fanatisme. Et du terrorisme. Mais c'est un peu ça ce que nous montre Antoine Witkin dans ce film, c'est qu'il y a un moment de vacances, entre guillemets, de vide intérieur, et c'est ça qui va pouvoir être rempli part de l'idéologie. Et moi, je trouve que dans le débat qu'on a à l'heure actuelle, c'est assez crucial.
Oui, c'est ça, parce que Toby Nathan sur les âmes errantes, justement, sur son livre sur les radicalisés,
exactement.
Dit la même chose. Enfin, c'est la même structure, en tout cas.
Oui, mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a des gens à qui on a appris à s'ennuyer sans qu'ils se sentent obligés de se remplir par cette espèce de délire idéologique.
Alors, faut-il savoir s'ennuyer, c'est ça le problème.
Voilà. Non, mais on touche du doigt quelque chose de crucial dans l'éducation actuelle, et c'est pour ça que je trouve que ce film pointe du doigt deux ou trois processus qui sont encore aujourd'hui en place et donc susceptibles de produire d'autres catastrophes qui ne seront jamais les mêmes.
Chercher des aventures politiques radicales, exaltantes et violentes pour lutter contre l'ennui, c'est effectivement ce que souligne Antoine Witkin qui met en garde quand même sur cette idée qu'il ne faut pas non plus faire trop vite des parallèles entre les années 30 et aujourd'hui, mais il raconte qu'il existe un certain nombre d'invariants qu'on peut repérer et qui peuvent peut-être nous alerter, et on l'entend dans les termes que vous employez. Vous dites que c'est une quête de compréhension aussi de ce moment de bascule vers le fanatisme. Ce qui est intéressant aussi avec cette personnalité de Magda Goebbels, c'est qu'elle incarne la famille allemande parfaite, avec ses 6 petites têtes blondes, sa vie en permanence mise en scène, pour vous qui êtes un spécialiste
oui, de la propagande,
elle devient, elle, un sujet, un être, un objet de propagande et une pièce maîtresse de l'imagerie nazie. Hein.
Oui, alors avec des mises en scène qui sont aujourd'hui d'un kitsch consommé, mais il faut savoir qu'on a, comme Goebbels était le ministre de la propagande, chaque année pour son anniversaire, il était de coutume que ses services lui organisent un petit film cadeau. Et donc on impliquait la famille, et c'est ce document-là, notamment qu'utilise Antoine Witkin dans le documentaire, puisqu'ils sont conservés au Deutsches Film Archive. Et donc, il filmait les enfants en 1943. On voit le petit garçon qui portait tous d'ailleurs des prénoms commençant par un H, par référence au fameux grand Adolf H. Donc, on voit ce petit enfant porter un masque de Mickey en pleine guerre contre les États-Unis, mais parce que c'est un film privé. Il y a d'autres moments où il y a des films qui sont, et ces films privés vont être ensuite utilisés par la propagande. Mais au départ, c'est les films cadeaux de la famille pour papa. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un mélange en fait entre la façade de la propagande stricte, la vie privée, et on voit comment eux sont, j'allais dire, presque au principe de ce que va devenir notre presse de boulevard avec ces célébrités dont il faut montrer le moindre des gestes intimes.
Début de pipolisation, effectivement.
Exactement, ouais. c'est une avant-pipolisation, mais volontaire. Très très stratégique.
Mais pour que la ménagère puisse se retrouver aussi dans cette image, elle représentait l'Allemagne ordinaire, Magda Goebbels, et vous évoquez aussi cette tentation, Géraldine Schwartz, à propos de votre grand-mère, mais plus largement autour de toutes ces familles allemandes à moyenne, ni totalement engagées, et surtout pas non plus en retrait. Vous écrivez, une partie importante de l'élite éduquée adhéra au Troisième Reich, séduite par la mission exaltante de faire renaître un pays de ses cendres, pour en construire un nouveau, militarisé, économiquement puissant, respecté dans le monde, lavé de l'humiliation du traité de Versailles. Il y avait cette exaltation qui était collective aussi, pour le coup.
Oui, je pense que c'est une particularité du rail, c'est d'avoir suscité l'enthousiasme dans toutes les couches de la population, que ce soit les ouvriers, les industriels, les aristocrates, les militaires, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes et les femmes, et effectivement, puisque ma grand-mère elle-même était beaucoup plus exaltée que mon grand-père. Elle aimait, elle admirait Adolf Hitler, comme beaucoup de femmes, et elle aussi a souvent menacé de se suicider. Ma tante s'en souvient, si Hitler perdait la guerre. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il y a eu beaucoup de suicides en Allemagne à cause de cette détresse face à l'avancée de l'armée russe et à cause de ce rêve qui tout d'un coup s'effondrait, qui est le rêve auquel tous les Allemands ont cru pendant les années 30. Mais c'est vrai que au-delà des femmes, il y avait dans le national-socialisme, je pense, une cumulation de réponses à un éventail de frustrations qui s'était accumulé depuis la Première Guerre mondiale, en rendant aux militaires une armée digne de cela, en rendant aux aristocrates une fonction comme diplomate, et aux ouvriers. Moi, j'avais rencontré quand j'étais journaliste en Allemagne, j'ai rencontré pas mal de témoins de cette époque, et ce qui m'avait fasciné, c'est de voir que chacun finalement avait une réponse différente à pourquoi avez-vous suivi Adolf Hitler. Et l'une des réponses les plus simples était parce que du jour au lendemain j'avais de la viande dans ma soupe. Donc ça peut aussi se réduire à ça, hein, l'adhésion à un régime. Et au-delà de ça, bien sûr, pour les jeunes, ce que vous avez évoqué, l'exaltation guerrière, l'esthétique du pouvoir aussi. Donc c'est un régime qui en 12 ans a quand même mis en place une modernité à travers sa propagande, à travers le retour de la camaraderie guerrière, l'exaltation de toute une série de choses a permis de répondre à l'ensemble de la population. Je ne sais pas si aujourd'hui on est menacé par cela, par un régime qui serait capable, ou un parti qui serait capable de répondre à l'ensemble de la population.
Qu'on retrouve parfaitement, en tout cas décrit et raconté dans le premier documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 2, autour des jeunesses hitlériennes, sur leur endoctrinement aussi. Ce que vous racontez, toute cette symbolique, ce sentiment de pouvoir qui pouvait exercer une telle fascination pour cette jeunesse. Mais vous dites aussi, on peut comprendre, on peut expliquer, mais on ne peut pas évidemment justifier et excuser ce qui s'est passé. S'il était aisé de trouver des excuses pour avoir succombé aux promesses d'Hitler, écrivez-vous, et saluez ses réformes sociales et économiques qui apportaient dans l'immédiat un réconfort bienvenu après des années de disette, il était beaucoup plus difficile de justifier la complicité passive de dizaines de millions de citoyens face à l'enlèvement en plein jour, sous leur nez, de plus de 130 000 juifs. Et à propos de cela, de cette capacité qu'ont pu avoir beaucoup d'acteurs ordinaires de l'histoire de fermer les yeux, comment ça s'est passé du côté français, du côté de votre grand-père Lucien, qui était lui gendarme d'armes à cette époque? Est-ce que là, la transmission s'est faite? Est-ce que là, la parole est passée d'une génération à l'autre? Est-ce que vous savez comment ils ont vécu cette période?
Mon grand-père français était gendarme sous Vichy, et pour tout vous dire, en fait, ça n'a pas jamais été, on n'en a jamais parlé dans la famille. Et dans mon livre, je consacre un chapitre à la rencontre de mon père allemand et de ma mère française. C'est dans les années 60, et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans les deux pays, puisque mon père, d'un côté, est extrêmement révolté contre son père. Il a une relation orageuse parce que son père, donc mon grand-père Karl Schwarz, n'a jamais condamné clairement le national-socialisme et n'a jamais voulu reconnaître sa complicité de Mitläufer, donc quelqu'un qui marche avec le courant dans les crimes nazis. Et mon père s'est révolté très très vite contre ses parents. Dans les années 60, une grande partie de cette génération allemande. En revanche, ma mère vivait près de Drancy à l'époque et n'avait jamais entendu parler du camp de Drancy. Donc là, on est dans les années 60. J'ai recherché à quel point c'était symptomatique aussi de la société française de cette époque. Et effectivement, en France, à cause du refus de reconnaître l'héritage de Vichy, la France a perdu beaucoup de temps. Elle a perdu 50 ans dans son travail de mémoire par rapport à l'Allemagne, qui s'est concentré sur le sujet justement de la responsabilité du peuple.
Sur ce parallèle quand même qui est très intéressant, parce que ça qui apparaît dans votre livre, c'est cette amnésie précisément des Allemands. On se disait qu'en Allemagne les choses avaient été différentes. Vous nous parlez en même temps d'amnésie dans les années 50 et puis ensuite d'un travail de mémoire accompli. Est-ce qu'à un moment donné ça bascule, ou est-ce que, et comment ça bascule, puisque vous nous expliquez par ailleurs qu'un grand nombre de personnes ont été entre guillemets recyclées parce qu'il fallait bien des gens pour faire fonctionner l'administration, la justice, etc. Et à partir du moment où l'ensemble des citoyens allemands, la grande majorité, était compromis dans le régime. Donc comment ça s'est passé, ce basculement, en Allemagne en tout cas?
Eh bien, on le doit pas du tout à la génération de la guerre, qui est restée dans le déni, comme mes grands-parents. En revanche, il y a quand même eu quelques personnalités, des juristes, des philosophes, des intellectuels, qui peu à peu ont élargi le cercle des responsabilités. Car après la Seconde Guerre mondiale, à Nuremberg, les responsables étaient, ceux qu'on désignait comme responsables étaient Hitler et un gang de criminels autour d'Hitler. Et ce qui s'est passé, c'est que lentement, le cercle de responsabilité s'est ouvert pour atteindre l'ensemble du peuple. Ça a été nourri de réflexions extrêmement intéressantes sur quand commence la culpabilité et la complicité. Par exemple, un fonctionnaire qui n'est pas au courant de l'Holocauste, de l'extermination des Juifs, est-ce qu'il est responsable quand il obéit à un ordre criminel? Karl Jaspers, le philosophe Karl Jaspers, a répondu par l'affirmative, parce qu'à partir du moment où un régime donne un ordre criminel, donc ça c'était dès 1933, un fonctionnaire doit se rendre compte qu'il a affaire à un régime criminel. Et donc il doit désobéir. Donc ça, pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est posé la question de savoir à quel moment on doit désobéir à un ordre. Ce qui a forgé un certain esprit d'indépendance en Allemagne par rapport à l'autorité. Une autre réflexion que je trouve assez intéressante, c'était celui du procureur Fritz Bauer, qui lui s'est posé la question de savoir, dans un camp d'extermination à Auschwitz, est-ce que celui qui ouvre le robinet à gaz et celui qui range les vêtements des Juifs a la même responsabilité. Et selon lui, oui, tout le monde dans un camp d'extermination est complice du meurtre, dans la mesure où ils savent que leur action, in fine, contribue à tuer.
Voilà, cette question des responsabilités qu'on a abordée avec Philippe Sands, l'avocat récemment dans l'émission aussi, auteur du Retour à Lemberg. Invité aujourd'hui de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, la journaliste franco-allemande et écrivaine Géraldine Schwartz pour son livre Les Amnésiques, paru chez Flammarion, et l'historien Fabrice Dalméda qui a épaulé le réalisateur Antoine Witkin pour son documentaire diffusé demain soir sur France 2, Magda Goebbels, première dame du Troisième Reich.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
Réveiller les mémoires, ce retour de l'histoire, on l'évoquait, a été marqué et consacré par un prix Goncourt et un Renaudot récemment, avec l'ordre du jour d'Éric Vuillard sur les coulisses de l'Anschluss et la disparition de Joseph Mengele, figure du mal, tortionnaire nazi, dans un roman d'Olivier Guèze. Écoutons ce qu'on dit aujourd'hui, Éric Vuillard, l'auteur donc de l'ordre du jour chez Actes Sud. N'a-t-on pas déjà tout dit? Quel sens trouver encore? Voilà le pont qu'il fait entre hier et aujourd'hui.
Nous vivons dans un temps où effectivement une oligarchie discrète, si on veut, hein, d'ailleurs pas si discrète que ça, puisqu'aujourd'hui on voit tout de même en ce moment une grande unanimité autour d'un certain candidat heureux à la présidence de la République. J'ai entendu hier le patron du MEDEF se féliciter du bon sens, enfin, il y a une sorte d'unanimité dans le diagnostic et les mêmes éléments de langage à droite chez certains socialistes et chez le patron des patrons, ce qui est tout de même un peu curieux, surtout quand les éléments de langage reviennent, à savoir, par exemple, le fait que tout ça doit se faire dans l'intérêt de la France. Je ne sais pas ce qu'est, moi, quant à moi, l'intérêt de la France. Alors, donc, on a cet aspect là, et puis cet aspect, l'aspect autoritaire dont je parlais, l'autre coordonnée. Donc, il y a la coordonnée économique, oligarchique, et puis autoritaire, c'est-à-dire qu'au fond, on nous parle aussi beaucoup de sécurité aujourd'hui, et derrière la sécurité, qu'est-ce qu'on trouve? Au fond, je crois, tout un discours politique, un climat politique sur la vigilance, enfin, qui vise tout de même une partie aussi de la population française. Et puis, il n'y a pas qu'en France que tout ça a lieu. Donc, voilà, les coordonnées sont pour une part, je crois, semblables, et on peut, de ce point de vue, en tout cas, n'ont pas peut-être tiré un enseignement du passé, ce serait beaucoup, mais le relire.
Géraldine Schwartz, Fabrice Dalméda, vous mettez tous deux vos enquêtes sous le prisme aussi de la crainte d'une répétition de l'histoire. Géraldine Schwartz, vous évoquez le cas pas simplement de la France et de l'Allemagne, mais aussi celui de l'Italie et l'Autriche, petits arrangements avec le passé. Vous revenez sur ce déni qui a pu vivre très longtemps et survivre notamment en Italie. Et vous rappelez que c'est important aujourd'hui encore d'aborder ces failles mémorielles dans lesquelles l'extrême droite parvient à s'engouffrer. On l'a vu en France, on l'a aussi vu récemment en Allemagne. De votre côté, Fabrice Dalméda, avec Antoine Wittkin, vous rappelez que cette question de l'endoctrinement est aussi importante à comprendre pour saisir un phénomène très actuel, celui du fanatisme. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer encore? Quel sens peut-on encore donner à cette période pour éviter que l'histoire ne se répète, Fabrice Dalméda?
Ouais, c'est pas tant la répétition que effectivement chercher des éléments de compréhension de la dans la contemporanéité. C'est-à-dire que il y a déjà des questions qui se posent sur notre rapport au monde, notre intelligence par rapport au monde. Ce que montre le film d'Antoine Wittkin, c'est que une certaine appréhension idéologique poussée à ses extrêmes a détruit le XXe siècle. Bon, ça c'est un premier aspect. On a aujourd'hui des aspects idéologiques, mais on a aussi un rapport de fuite au réel. Par exemple, quand on refuse de reconnaître des phénomènes physiques, là je pense bêtement au réchauffement climatique, quand on refuse de reconnaître un certain nombre d'éléments qui relèvent de l'écologie, bon, ça entraîne des fuites hors du réel qui ont aussi leurs incidences et qui peuvent aussi, à leur tour, engendrer des discours encore plus radicaux, encore plus idéologiques et qui, à terme, peuvent à leur tour provoquer une catastrophe. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, il y a un collègue qui travaillait sur le nazisme et qui voyait au fond une écologie, c'est-à-dire un rapport avec le monde et qui pensait que ce rapport écologique faux était à la base même du génocide. Et donc aujourd'hui, on a un rapport aussi à l'écologie qui est compliqué, avec des dénis de réel qui sont tout aussi compliqués. Donc ça, par exemple, c'est un modèle. La deuxième chose, c'est cette espèce de fuite en avant qu'on a dans la radicalisation. C'est-à-dire que on a un premier engagement. Vous savez, il y a une phrase que j'ai entendue qui était dans la bouche d'un acteur, en l'occurrence Brad Pitt, qui disait « Les intentions sont bonnes, mais l'histoire est tragique ». L'histoire est même cruelle, on pourrait dire. Et c'est un peu ça qu'on voit. C'est-à-dire que chaque événement et chaque élément de contradiction, de durcissement, ben, pousse les gens à aller un petit peu plus loin dans la radicalisation. Et c'est le phénomène auquel on assiste aujourd'hui. Et on le voit même du point de vue des démocrates. On a des gens qui deviennent des démocrates de plus en plus intransigeants. C'est-à-dire qu'on devrait être démocrate en poussant tout le monde à se taire. On voit même cette logique-là. Et donc cet engrenage-là, qu'on perçoit à travers un parcours individuel qui est celui d'une femme un peu désœuvrée qui ensuite se marie, puis qui rentre dans un mouvement, puis qui ensuite va aller un peu plus loin, puis qui va soutenir la liquidation, puis etc. etc. Et ben on le retrouve version un petit peu encore euphémisée aujourd'hui, mais il est là.
Sortir l'Europe de l'amnésie, Géraldine Schwartz, en un mot.
Écoutez, l'Europe s'est construite sur un rejet du fascisme après la Seconde Guerre mondiale et c'est pour moi la meilleure école de la démocratie. Les partis d'extrême droite en Europe ont un rapport très ambigu avec ce passé-là et essayent de réviser ce passé-là justement pour fragiliser les fondements, le consensus mémoriel et moral en Europe depuis l'après-guerre.
Géraldine Schwartz, Fabrice Dalméda, merci beaucoup. Toutes les références sont à retrouver sur notre site, sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous écrire et vous abonner au podcast de l'émission. Un grand merci à Claire Maillot et Chloé Leblon qui ont programmé et préparé cette deuxième partie, à Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Maxime Morin et de Bertie Bourdon. À la réalisation aujourd'hui, Alexandre Fougeron avec Myriam Guillot. Demain, rendez-vous pour une nouvelle grande table. D'ici là, très bel après-midi à tous.